Bonsoir à tous. Les combattants kurdes quittent Ras Al-Ain, ville assiégée par les forces turques dans le nord-est syrien. Trêve armée bien respectée selon Washington. Commentaire de Justin Weiss, l'un de vos invités, Frédéric, que nous solliciterons dans un instant sur la politique étrangère de Donald Trump. Le Brexit, détour par Londres, confusion à son comble dans le Royaume au lendemain de la troisième demande de report adressée à Bruxelles. Nous soulignerons la forte poussée du vote écologiste aux élections fédérales suisses. Et puis nous prendrons la mesure de la détérioration du dialogue social au sein de la SNCF avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Et l'Observatoire des droits de l'homme et le ministère turc de la Défense prétendent que les combattants kurdes en poste à Ras Al-Ain ont quitté la ville assiégée par les troupes turques. Serait-ce là une amorce de retrait à 48 heures de l'expiration de la trêve négociée auprès de Recep Tayyip Erdogan par le vice-président Mike Pence? Élément de réponse avec à Beyrouth notre correspondant Aurélien Colli.
Le chef militaire des forces kurdes, le général Mazlum Abdi, reprochait à la Turquie d'empêcher le retrait de ses forces du secteur frontalier de Ras Al-Ain. Démenti d'Ankara, qui accusait les Kurdes de provocation. Des combats sporadiques ont continué ces dernières 24 heures. Désormais, c'est officiel des deux côtés. Les forces kurdes annoncent leur retrait complet de ce secteur où elles étaient assiégées. Et le ministère turc de la Défense confirme. Un convoi d'une cinquantaine de véhicules est entré dans la ville. 86 en sont sortis un peu plus tard. Par ailleurs, un autre convoi humanitaire, cette fois du Croissant Rouge kurde et d'ONG, avait aussi pu accéder à la localité pour ramener plus au sud des civils et des combattants blessés. Conformément à l'accord de trêve négocié par Washington, les Turcs contrôlent donc désormais une bande frontalière d'une centaine de kilomètres de long entre Ras Al-Ain à l'est et Tel Abyad à l'ouest, une bande de 32 kilomètres de profondeur en territoire syrien où elles n'ont pas l'intention de rester, a répété Ankara, à condition qu'aucune force kurde ne s'y trouve. Avec le retrait des troupes américaines de tout le nord-est syrien, c'est la Russie qui va maintenant jouer les médiateurs entre la Turquie et le régime de Bachar al-Assad, dont l'armée est déployée au sud de cette bande frontalière tenue par les Turcs, le long d'un axe routier qu'elle contrôle, mais sans avoir la volonté d'affronter directement le voisin turc.
D'autres mouvements de troupes dans ce nord-est syrien, Washington fait publicité du transfert de 1000 hommes, 1000 instructeurs des troupes spéciales dans l'ouest irakien. Bonsoir Justin Weiss.
Bonsoir.
Vous êtes, je le disais à l'instant, l'invité de Frédéric Martel, au titre de directeur général du Forum de Paris sur la paix, mais vous n'avez jamais cessé, et on en parlait il y a un instant, de vous intéresser à la vie politique et à la société américaine. Justin Weiss, comment percevez-vous les orientations, les décisions de l'administration Trump dans le dossier syrien?
Je pense qu'il y a deux niveaux d'analyse. Il y a d'abord un niveau assez simple qui est que c'est une faute, une erreur et une faute. Une faute politique d'abord parce que évidemment ça rend service à la Russie, au régime syrien et à d'autres. C'est une faute militaire parce qu'on a vu dans quelles conditions les militaires américains avaient été obligés d'évacuer, y compris de détruire leurs propres dépôts de munitions, etc. Puis c'est une faute morale d'abandon des Kurdes qui se sont battus contre Daesh. Et ça, c'est le fruit d'une politique à la gribouille. C'est le fruit d'une politique décidée par le président, c'est bien lui qui est responsable, mais qui est incohérente. Mais à un deuxième niveau tout de même, elle est moins incohérente qu'elle n'en a l'air. Parce que, en réalité, il y a bien un dessein que poursuit Trump, qui est un dessein qu'on pourrait dire isolationniste en un sens. C'est-à-dire il s'agit de partir du Moyen-Orient. Et ce mouvement-là, Barack Obama l'avait initié et on sait ce qu'il produit. Il produit du vide et la nature a horreur du vide, la géopolitique a horreur du vide. Et donc ce vide est rempli par d'autres, par le régime syrien, par les Russes, par la Turquie. Et ce mouvement-là, il y a eu un grand mouvement d'arrivée au Moyen-Orient des États-Unis dans les années, à partir des années 70, assez tardivement en réalité. Maintenant, on assiste à ce grand reflux qui évidemment crée des trahisons et des tensions et des violences importantes.
Justin Weiss, d'un dernier mot, l'OTAN est mort ?
On a un vrai problème avec l'un des membres de l'OTAN qui, en effet, va à l'encontre des, disons, du consensus de tous les autres et dont les forces tangentent celles d'un autre membre de l'OTAN, en l'occurrence les États-Unis, sans parler de quelques autres, et se trouve quasiment au contact militaire avec eux. Donc, oui, l'OTAN a là, évidemment, un défi qui lui est
lancé. L'OTAN est abîmé. Merci à vous, merci Justin Weiss. On vous retrouve évidemment en compagnie de Frédéric Martel dans un instant. La lourde tâche qui consiste à ratifier l'accord négocié par Londres à Bruxelles revient au Parlement européen, réuni la semaine prochaine en séance plénière. Non moins fastidieux, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a lui pour mission de prendre langue avec les dirigeants des 27 et de dégager une position commune. Et Londres ? Eh bien Londres fulmine et rumine son vague à l'âme tandis que le Premier ministre se montre inflexible. Marina Daras.
Le vote historique de samedi devait enfin apporter une clarification après plus de 3 ans de tergiversation politique. Mais avec ses 3 lettres disant tout et son contraire, Boris Johnson semble avoir voulu gagner du temps auprès de l'UE. Downing Street devrait proposer un nouveau vote parlementaire dès lundi sur l'accord de sortie négocié par Boris Johnson. Et d'après les calculs du gouvernement, il aurait des chances d'être adopté. Si c'est le cas, le bras droit de Boris Johnson, Michael Gove, affirme qu'il n'y aura pas d'extension et que le Royaume-Uni sortira bel et bien de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Nous en avons les moyens et la capacité de le faire, assure Michael Gove, qui confirme avoir également déclenché le processus d'urgence en cas de no deal. Il affirme que le risque d'une sortie sans accord a augmenté depuis le vote d'hier, car le Royaume-Uni ne possède aucune garantie que l'UE acceptera sa demande. Vent debout contre toute nouvelle extension, Boris Johnson sera malgré tout obligé d'accepter un report de l'échéance si son accord ne convainc pas une majorité de députés. Une nouvelle semaine de débats et de votes s'annonce à la Chambre des communes, non sans rebondissement au vu des critiques de l'opposition sur l'accord Johnson.
Les élections fédérales en Suisse n'échappent pas à une montée en puissance du vote écologiste en Europe. Les Verts et les Verts libéraux sont les deux seules formations en lice à progresser et significativement les conservateurs nationalistes en perte de vitesse restent le premier parti de la Confédération. Jérémy Lanche nous appelle de Genève.
Tous les sondages donnaient les écologistes en hausse. Les premiers résultats montrent une poussée encore plus importante que prévue. C'est un jour de joie, dit le patron du groupe des Verts au Parlement. Tous les cantons ou presque voient les écologistes progresser. C'est le cas dans les grands centres urbains de Genève et de Zurich, mais également dans les plus petits cantons comme Glaris, en Suisse alémanique, où c'est un Vert qui l'a emporté contre le député sortant venu de la droite populiste UDC. Tout un symbole alors que l'UDC est le parti qui subit le plus gros recul dans les urnes. Une défaite à relativiser, car le parti nationaliste reste la première formation politique de Suisse. Et si le Parlement bascule à gauche, on ne peut pas parler de véritable révolution. Même dans le cas où les Verts intégreraient le gouvernement fédéral, toutes les décisions sont prises par consensus entre les grands partis. D'autant plus qu'en Suisse, c'est le peuple qui a le dernier mot. Les électeurs peuvent donner tort à leurs représentants lors des votations populaires organisées plusieurs fois par an. Elles attirent d'ailleurs souvent plus d'électeurs que les élections fédérales, où la participation n'a plus dépassé les 50% depuis 1975.
En France, le trafic ferroviaire reprend progressivement au 3e jour d'un bras de fer entre la direction de la SNCF et les agents de conduite et contrôleurs qui ont exercé leur droit de retrait après un accident de TER mercredi dernier dans les Ardennes. Un seul agent à bord, conditions de sécurité douteuses pour les salariés, grève sauvage pour le gouvernement. Ce dimanche semble se refermer sans aucune ouverture de part et d'autre, ce qui ne surprend pas outre mesure Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, qui livre là à Sarah Ders des éclairages sur le texte et le contexte.
Le droit d'alerte et de retrait est un droit qui a été mis en place et qui est dans le Code du travail et qui permet à tout salarié, en cas de danger grave et imminent et chaque mot a son importance, de se retirer immédiatement d'une situation qu'il estime dangereuse sans avoir à demander l'autorisation à l'employeur. Un salarié, un cheminot par exemple, qui vit un accident ou menace d'un accident, peut en effet se retirer. Ce droit de retrait peut-il être élargi, invoqué par d'autres cheminots partout en France ? Réponse non, il n'y a pas danger grave imminent. Par contre, il y a urgence probablement à une discussion, à une négociation, à un examen des conditions de travail, des conditions de sécurité. Nous sommes dans un contexte qui rend l'étude du droit d'alerte et de retrait au sein de la SNCF extrêmement délicat. Nous savons bien évidemment que dans la perspective du 5 décembre prochain, les organisations syndicales mobilisent, que ce soit à la RATP, à la SNCF ou d'autres entreprises. Donc, la mise en œuvre d'un droit d'alerte et de retrait au mois d'octobre est une sorte de préfiguration d'une montée en température, d'une montée en puissance de la grogne syndicale contre le gouvernement. Ça, c'est le contexte. le texte est très délicat parce que il existe au sein de la SNCF une loi sur le dialogue social qui oblige à la négociation, qui dit qu'en cas de grève, il doit y avoir une déclaration individuelle des grévistes 48 heures avant, que les prévisions de trafic doivent être publiées 24 heures à l'avance. Or, nous venons de vivre tout à fait autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une grève, un mouvement collectif, surprise, qui désarçonne la direction, le gouvernement aussi, et ne l'oublions pas aussi, les voyageurs.
200 parlementaires et présidents de départements s'opposent à une réduction des budgets des chambres d'agriculture envisagée par le gouvernement en pleine préparation du budget 2020, entre autres mesures visées par ce collectif. La baisse de 15% de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti qui rapporte 292 millions d'euros aux chambres d'agriculture, soit la moitié de leur enveloppe. Le temps pour demain, selon Météo France, le temps en quelques mots. Généralement variable avec des pluies soutenues des Alpes à la Côte d'Azur. Au lever du jour, température minimale comprise entre 7 à 8 degrés dans l'intérieur de la Bretagne, 15 à 19 en Corse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.